Donc, bon matin. Merci d'être là encore ce matin. Alors, on aborde la quatrième discipline, la discipline de l'esprit. Je trouve qu'avec la semaine dans les médias qu'on a vécu, c'est peut-être un bon point de ramener un petit peu ça avec tous les scandales qu'il y a eu ici au Québec. Hein. Il y a un animateur de radio qui disait, comme Québécois, cette semaine, on se sent sale. Puis je trouvais que l'esprit était bien choisi là, par l'animateur. Fait que nous, on va regarder un petit peu la discipline de l'esprit. Vous allez voir, c'est assez succinct comme contour. Fait qu'on va vraiment aborder plus notre femme cette semaine, qui est Esther, qui est finalement pas juste un modèle d'esprit. On voit vraiment là qu'on va pouvoir réaborder la notion de soumission, de prière, d'évangile. Esther, c'est vraiment un modèle qui a touché à plusieurs disciplines dans sa vie. Donc, on va vraiment l'aborder plus en détail ce matin. Donc, on va commencer par deux versets. Enfin, on va commencer par une prière. Je réalise que souvent, je pars dans mon élan et j'aimerais ça, si quelqu'un veut prier pour le cours ce matin, j'apprécierais. Oui, parfait, merci.
Alors, Tendre Père, c'est vraiment en 2004 qu'on se place devant toi, Seigneur, afin qu'on puisse vraiment appliquer ce qu'on va entendre. Et merci parce que tu vas guider justement cette personne qui... Désolée, je ne me rappelle pas de ton prénom, mais je sais que tu vas l'utiliser afin qu'on puisse comprendre et encore une fois grandir en toi. C'est en Jésus que je te prie et que je te dis merci. Amen.
Amen. Amen. Donc, Mireille, c'est pas grave. Donc, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. 1 Corinthiens 2, 13, or nous avons la pensée de Christ, un esprit, une pensée qui sont constamment renouvelées. Hein? Donc, c'est sûr que nous, notre potentiel en tant qu'être humain a différents niveaux. Hein? On voit dans la société, on a tous des intelligences différentes. Il y en a que c'est plus mathématique, plus logique. Ce matin, on parlait de la technologie. Moi, l'intelligence, la technologie, je l'ai manqué quand j'étais jeune. Donc, on a vraiment des capacités différentes. Mais notre plein potentiel en tant que chrétien puis enfant de Dieu, on l'atteint seulement par le Saint-Esprit puis par notre croissance spirituelle hein, dans notre vie chrétienne. Puis souvent, nous, on va atteindre un certain niveau hein, de prière, de culte, d'adoration, de service dans l'Église. Mais il y avait des commentateurs qui ont utilisé l'expression d'anorexie religieuse. Puis je trouvais ça intéressant parce que c'est comme si il y avait comme un statu quo, une satisfaction, puis qu'on avait un manque de nourriture puis un manque de breuvage dans notre vie quotidienne, étant donné que nos attentes n'étaient pas nécessairement toujours conformes avec ce qu'on avait besoin de grandir comme vie chrétienne. Fait que souvent on est dans notre confort. Ben souvent on est dans un confort. On dit ok, j'ai ce temps-là pour servir, j'ai ce temps-là pour avoir un culte selon notre vie. Mais est-ce que vraiment on continue toujours à vouloir avoir faim et avoir soif de Dieu, ou on reste dans cet état-là où que c'est notre équilibre de tous les jours, on est bien et on ne cherche pas nécessairement à aller plus loin. Les Écritures qui mentionnent que ce qui rentre de nous, ce qu'on voit, ce qu'on dit, ce qu'on pense, vont souvent nous former. Hein? Fait que il y a l'expression là, dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es. Là. Ben, c'est un petit peu ça comme chrétien. Hein? Si on regarde notre semaine, Mme Prévost, au lancement, elle avait parlé du nombre d'heures dans la semaine de ce qu'on fait. Hein? Le nombre d'heures qu'on dort, qu'on mange, qu'on est au travail, qu'on est avec nos enfants. Si nous, on se fait un propre survol de notre semaine, combien de pourcentage de temps on est vraiment en contact avec l'Évangile ou on le vit? Hein? Des fois, on peut faire à manger, mais est-ce qu'on est dans la louange, dans les prières? C'est pas obligé d'être la tâche en tant que telle, mais dans nos pensées, dans nos actes, dans nos paroles, est-ce que dans notre semaine, on a un pourcentage qui reflète qui on veut vraiment être comme enfant de Dieu? Est-ce que dans notre programmation de qu'on est, on reflète vraiment ça? Dans nos discussions avec les gens avec qui on est, est-ce qu'il y a un pourcentage de qui on est vraiment comme chrétien qui l'est reflété par ce qu'on dit? Fait qu'au travail, est-ce que notre langage qu'on utilise, il y a un pourcentage ou quelque chose qui fait qu'on se distingue des autres ou qu'on a juste un esprit de Dieu qui reste présent? Je vais vous donner un exemple. Hier, on s'en allait à un spectacle, on oublie les billets, on revient à la maison. Là, on voit 8 autos de police devant le parc. Là, on s'arrête, on questionne qu'est-ce qui se passe. Un enfant de 9 ans est perdu dans le bois. Alors, ils font une battue. Puis là, on avait comme cru comprendre que c'était un enfant dans la classe d'Elzo. Hein? Fait que d'autant plus qu'on se sent concerné. Fait que là, Luigi, il est comme bouleversé. On va chercher les billets. Il dit, on a le temps. Il dit, je m'en vais faire la battue avec les policiers, là. Faut trouver. C'est un nouveau développement de bois, le boisé du Tremblay. C'est plus grand que le parc Michel Chartrand. Ils sont en train de construire des pistes, mais il n'y a pas d'indication. Fait que l'enfant a quitté le chemin. Et là, on est dans les marais. C'est un marécage de grenouilles. Fait que là, l'enfant est vraiment perdu. Il peut être où? Il est 3h, 3h30. La clarté, hein, 6h30. Fait qu'on peut pas attendre à 6h de dire on va attendre de voir s'il revient, faut chercher. Là, on se stationne, puis le voisin à côté, on a appris à les connaître, on dit, hey, il y a un petit garçon de 9 ans qui est perdu, aussi il y a deux enfants. Le monsieur, il dit, parfait, il dit, je prends mon auto, je m'en viens avec toi. Fait qu'on part, là, les hommes partent à la battue, nous, moi, je reste avec Italia. Finalement, ils ont retrouvé le petit garçon, hein, fin du suspense. Ça a pris quand même 2-3 heures, retrouver le petit garçon, là. Fait que j'imagine quand même qu'il y avait une inquiétude de la maman, de l'enfant. Fait que là, nous, on quitte pour aller à notre spectacle. Puis le monsieur, il rappelle Luigi pour lui dire, hein, oublie pas, on l'a trouvé parce qu'il était parti dans deux directions. Puis on a trouvé que le monsieur, il avait une tellement belle attitude, un empressement à aller aider pour la battue. Rappelle Luigi pour lui dire qu'on a trouvé le garçon, mais on n'a même pas pensé le rappeler. Est-ce qu'il y avait un esprit chrétien? Il y avait en tout cas un esprit de servitude, de communauté, hein, puis d'altruisme envers le petit garçon. Fait que des fois, nos façons d'agir, de penser peuvent être très bien dans la gentillesse, dans les bonnes valeurs, comme les non-chrétiens. Fait qu'il faut des fois dépasser ce stade-là où que, oui, il faut être différent, mais il faut aussi avoir cet esprit-là d'aller plus loin que les choses parce qu'il y a vraiment des gens dans la vie qui sont très gentils, qui sont très serviables, puis qui peuvent avoir des bonnes valeurs, mais ils n'ont pas nécessairement tout cet esprit-là chrétien. Fait que c'est juste pour amener une réflexion un peu plus profonde sur, c'est pas juste d'avoir un beau témoignage, c'est vraiment d'être capable d'aller un peu plus loin puis de parler de notre évangile parce que nos bonnes actions vont peut-être susciter des questionnements aux autres, mais c'est pas ça qui va venir questionner puis challenger les gens. C'est autour de nous, on est dans une communauté qui est bien serviable. Alors, nos choix font toute la différence en ce qui concerne notre esprit. L'écart entre ce que nous acceptons maintenant dans l'Église et ce que le monde accepte n'est pas aussi grand qu'il l'était auparavant. Ça, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de dire, dans le sens qu'avant, on était un peu plus dans la légalité, dans le légalisme sur certaines règles, ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, c'est pas le débat de ce matin. C'est vraiment plus se dire qu'il y avait des tranches. On s'habillait pas pareil, on faisait pas les mêmes choses, on n'avait pas le même langage, pas les mêmes goûts musicaux, pas les mêmes choses. Aujourd'hui, c'est départagé. On a des gens qui aiment le punk, le heavy metal dans l'Église. Ils sont chrétiens quand même s'ils font ça. Il y a des différences dans nos choix, dans nos intérêts, qui se rapprochent des fois plus du monde aujourd'hui, puis on s'y confond à certains moments. Alors, des fois, la ligne est fine. Je pense que c'est un bon exemple, la prédication sur l'Halloween, hein, ce matin, pour vraiment être capable d'être dans l'esprit de ce qui nous distingue du monde, nos choix, sans être dans le légalisme qui a causé d'autres problèmes, mais quand même qui fait que des fois, la ligne est fine entre est-ce qu'on est vraiment dans un esprit chrétien ou pas. Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Hein? Moi, quand j'étais jeune, je pensais qu'on pouvait pécher en parole et en action. J'avais un esprit très convaincu jeune. Alors là, je faisais un péché, là, je priais, je demandais pardon. Hein? J'étais capable de compter mes péchés par jour. Mais quand j'ai compris que je pouvais pécher en esprit, j'ai eu une petite soirée de détresse. Je me souviens très bien de m'être dit, « Ah, mais là, j'ai jamais demandé pardon pour mes pensées. Là, j'ai 12 ans de vie à demander pardon. » J'étais vraiment... Ça m'avait vraiment perturbée. Mais après ça, je me suis rendu compte, « Oh, là, ça venait pas multiplier, mais en exponentiel mes péchés dans la journée. Hein, ma jalousie, ma convoitise, mon orgueil. » Fait que vraiment, là, on se rend compte, puis encore plus à l'âge adulte, où on a une maîtrise de soi à nos enfants. La maîtrise de soi, ils la travaillent. Leur hyperactivité, la maîtrise de soi, des fois, ça va ensemble. Moi, ma fille, hein, c'est ça. Ça va vite, ça va vite. Fait que, elle tombe, elle se fait mal, elle crie. Tu sais, ça sort vite. Puis en vieillissant, on se maîtrise plus. Fait qu'en théorie, on devient meilleur à contrôler nos paroles, nos pensées. On est capable de mettre une réflexion. Pas nos pensées, nos paroles et nos gestes. On a une réflexion. Mais nos pensées, il y a comme une rapidité qui est encore là. Fait que si on n'est pas imprégné de la parole, puis dans cet esprit-là, bien, qu'est-ce qui vient en premier? Il vient en premier de ce qu'on est imprégné. Fait que si on est imprégné dans un milieu de travail qui sale, qui ont des pensées, bon, on s'imprègne de ça, puis souvent, ça teinte un peu comment on peut être en pensée. Madame Hughes est très drastique dans certaines choses, comme par exemple, elle, ses enfants n'avaient pas de télévision de toute leur enfance, et même encore, elle n'a pas de télévision. Puis là, elle mentionne, si la télévision est pour vous un péché, on la jette à la poubelle. Hein? Fait que c'est tout un autre monde où, en tout cas, nous, je crois que la majorité d'entre nous avons beaucoup un téléviseur chez nous, avons des heures même en... Au travail, là, les médecins disent un nombre restrictif par enfant, il ne devrait pas avoir plus que 2 heures. Hein. On restreint ça pour le développement du cerveau de l'enfant, mais aussi pour ce qu'il est confronté à voir. On parle de la violence, de la sexualité, mais nous, on se rend compte qu'il y a des émissions qu'il est confronté à l'enfant, se rebute contre son parent. Hein. Il est confronté à plein de comportements qu'il associe comme bon ou pas, puis ça devient des exemples pour lui. Là, je parle de l'enfant, parce que pour l'adulte, nous, on est supposé avoir une meilleure réflexion que ça. Mais quand on lit nos livres, qu'il y a une histoire plus romantique, un mari plus attentionné que le nôtre, une série où ils ont une meilleure amie qu'ils peuvent toujours appeler, puis que nous, ça vient nous chercher, des fois, ça nous donne des modèles qui peuvent être plus ou moins réalistes, qu'on ne vit pas, puis on a comme une sorte de convoitise qu'on voit là-dedans. Fait que des fois, moi, je suis une grande, grande liseuse de romans, puis je me rends compte que des fois, ça m'imprègne dans ce que je pense, dans ce que je vois, puis on se ramène, là, c'est correct. Mais de beaucoup lire, de beaucoup regarder la télévision, même de beaucoup lire des livres chrétiens, des fois, il faut vraiment être toujours en analyse de ce qu'on regarde, ce qu'on lit, parce que ça vient vraiment former notre esprit. Psaume 101, « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Hein, c'est vraiment la notion d'être capable de faire des meilleurs choix pour que notre esprit soit constamment renouvelé, comme on a vu dans les premiers versets, puis que quand on a une pensée rapide ou quelque chose qui arrive, bien, ça soit quelque chose qu'on soit rempli, qui vienne au lieu d'être quelque chose de mauvais qui vienne en premier. Si vous êtes rempli de la parole, Dieu façonnera et dirigera votre vie, vos relations familiales, l'éducation de vos enfants, votre carrière, vos décisions d'ordre éthique, votre vie morale intérieure. Le seul chemin pour développer un esprit chrétien passe par la parole de Dieu. Alors, c'est super clair, hein? Ça serait la phrase que tout le monde aurait pu dire au premier cours. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que il n'y a pas de grenier pour Dieu. Hein? On dit souvent, je ne sais pas si vous aviez appris ça, mais moi, plus jeune, on disait, faut que tu donnes toute ta maison à Dieu, hein? Pas juste ta cuisine, ton salon, ta salle de bain. Faut que tu donnes toute ta vie au complet à Dieu. Il ne faut pas que tu gardes un grenier puis un sous-sol. Il faut que tu sois capable de donner toutes les sphères de ta vie. Hein? Fait que si dans l'éducation des enfants, on est à la limite de ce qu'on est capable d'apporter, bien, ça veut dire que c'est un sujet qu'il faut continuellement être capable de remettre entre les mains de Dieu. Puis, on voit aussi que la notion de temps pour Dieu n'est pas la même que la nôtre. Donc, l'esprit ne va pas être façonné nécessairement en une semaine de prière ou en un seul jeûne. Ça va être vraiment d'être constamment renouvelé là-dedans. L'esprit est plus grandiose que tous les ordinateurs mis ensemble parce qu'il peut posséder la pensée de Christ, penser comme Dieu, revêtir son cœur et accomplir ses œuvres. Oups! Ah! Fait qu'on est déjà rendu à notre femme. Puis je trouvais là, que de toute façon, d'aller plus loin dans l'esprit en utilisant Esther, je trouvais que c'était très concret. Puis vous allez voir, là, j'ai changé de personne contemporaine pour avoir vraiment quelqu'un d'aujourd'hui qui me touchait particulièrement pour pouvoir vous montrer que avoir de la discipline de l'esprit peut passer de plein de façons. Donc aujourd'hui, on aborde Esther, hein, c'est un incontournable. Esther, c'est une des deux femmes qui a un livre dans la Bible qui porte son nom. On a Ruth, qu'on a déjà vu, et on a Esther. Je vais revenir au verset plus tard, il s'applique plus tard. Donc, il est dans l'Ancien Testament, il couvre à peu près une période de 18 ans. Par rapport historiquement, là, pour ceux qui le savent mieux que moi, c'est à peu près dans l'histoire d'Esdras que l'histoire d'Esther se passe. Donc, dans le livre d'Esther, aucune mention de Dieu, le nom de Dieu n'apparaît pas, comme dans le livre des Cantiques, qu'il n'y a pas de mention de Dieu. Par contre, hein, c'est imprégné de la présence de Dieu du début à la fin. Dieu y est très présent. Il y a plein d'hypothèses qui sont émises. Une soulevée était que s'il était dans un moment de persécution ou entre les mains des ennemis, d'avoir la notion de Dieu dans un livre pouvait être plus difficile. Donc, ce n'est pas abordé, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas présent. Il y a aussi le fait que Esther est mentionnée 45 fois dans son propre livre. C'est vraiment la femme qui est le plus mentionnée à travers toute la parole. Elle est bien utilisée. Et en plus, il y a une fête que les Juifs célèbrent à la mi-mars pour célébrer la délivrance que Esther a apportée. Donc là, on va vous conter un petit peu l'histoire pour ceux qui sont moins familiers. Donc, il y a trois personnages principaux. Il y a le roi Ahasuérus, là, il y a plusieurs noms dépendant de la version de Bible qu'on a. Ce roi-là était très riche, c'était le roi de Perse. La Perse couvrait 127 provinces de l'Inde à l'Éthiopie. Fait que c'était un très, très gros royaume. Le roi était très riche et très puissant. Mais il était très imprévisible. Il avait un caractère. On le voit au travers du livre, il change d'idée rapidement. Il est impulsif. Est-ce que c'est son tempérament ou juste que certaines décisions qui nous est soulevées montrent son tempérament? Mais lui, il avait une femme, une reine, Vasti, qui était là. Lors d'une grande célébration, on lui demande de se présenter devant les gens. La femme refuse là, d'être utilisée comme objet ou présentation. Et le roi se fâche et renie la reine et décide d'en chercher une autre. Une sorte de beauty contest, hein, que certains commentateurs disent. Le roi fait un appel, les plus belles femmes du royaume se présentent, doivent se préparer, ennemies devant le roi. Mardochée, qui servait dans la cour, incite Esther à s'inscrire. Esther est juive, ne doit pas le mentionner, ça ne faisait pas partie des conditions d'admissibilité. Mais finalement, Dieu dirige que Esther est la reine choisie et vit maintenant au palais. Donc, Esther, qui est une juive, qui a été élevée par son cousin, / oncle, Mardochée, qui est d'une grande beauté, qui est devenue la reine. Mardochée, lui, est un bon serviteur dans la cour du roi, a dans le passé très récent déjoué un complot contre le roi. Donc, il a été capable là, d'éviter que le roi se fasse tuer, mais il est bien haï du premier ministre, celui qui est en charge, Aman. Et Aman essaie de trouver une façon d'exterminer Mardochée et le peuple juif. Donc, il va vraiment aller trouver une façon de manipuler le roi pour qu'un décret soit émis pour que le peuple juif, dont Mardochée, soit exécuté. Et le roi, dans tout son règne, décide d'accorder ce décret-là. Pour finalement que Mardochée se dise, eh là là, là, un génocide de juifs s'en vient. Si c'est accompli, tous les juifs vont être exterminés. Il faut vraiment faire quelque chose. Alors, Mardochée, lui, se souvient que Christ est supposé venir à la naître de ce peuple, que le Messie est supposé venir. Donc, Mardochée, lui, place vraiment sa confiance en Dieu et approche Esther pour lui demander d'intervenir pour pouvoir l'utiliser. Puis Esther, finalement, comme reine, n'a pas le pouvoir d'aller voir le roi pour lui faire des demandes, mais le roi peut l'exécuter si elle se présente dans son palais sans y être autorisée. Donc Esther est un peu nébuleuse face à la décision au point de départ. Mais Mardochée va lui dire, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Hein? Mardochée ramenait le fait que Dieu est au contrôle de tout, puis que peut-être que Dieu avait mis Esther dans cette situation-là pour pouvoir sauver le peuple. Donc Esther va demander que tout le peuple juif et ses servantes et ses serviteurs fassent un jeûne et aillent dans la prière pendant 3 jours pour intercéder que Dieu dispose des circonstances. Alors Esther a vraiment utilisé ce moyen-là pour se redonner confiance puis mettre sa confiance en Dieu. Puis, elle va après approcher le roi qui, comme vous le savez, va lui permettre d'approcher. Donc, il ne l'exécutera pas. Il a été disposé à la recevoir. Elle va le faire venir à un sort de banquet, célébration. Sentant que ce n'est pas le bon moment, va dire au roi, on va refaire un banquet demain. Et le roi, pendant ces 2 banquets-là, va souffrir d'insomnie, va revisiter le livre hein, de toutes les histoires de son royaume, va se rendre compte que Mardochée avait déjoué un complot, mais n'avait pas eu de récompense. Donc, vraiment, il est disposé à Mardochée, à un élément en faveur. Et lors du 2e banquet, quand Esther va expliquer toute la situation, le roi va vraiment être favorable à la cause des Juifs. Aman va finalement être exécuté à la place de Mardochée. Puis Mardochée va être élevé dans le service. Et finalement, ils vont tuer 75 000 de leurs ennemis des Juifs au lieu d'exterminer les Juifs. Hein. Tout un revirement de situation. Dieu a vraiment utilisé le trait de caractère du roi et son impulsivité et a vraiment, finalement, changé de bord le cours des choses. Donc, c'est toute une histoire rocambolesque qui finalement nous montre Esther dans plein de situations. Hein. Une femme d'une grande beauté qui était dans une situation de vie puissante, hein, qui avait tout à sa disposition, mais qui n'avait pas les qualités d'être la reine. Elle était juive, hein, elle avait comme un sous-entendu. Puis finalement, même si elle voulait, elle aurait pu garder ça pour elle puis pas vouloir intercéder pour son peuple. C'était à double tranchant. Si les gens devinaient, savaient qu'elle était juive, elle aurait subi le même sort. Mais cette femme qui a fait un parcours a finalement été une grande héroïne de la situation parce que vraiment, c'est une des premières histoires où on a autant une extermination globale qui aurait pu être là des Juifs, étant donné que ça visait vraiment tout le peuple qui était là. Donc, Esther, cette crise a mis en lumière la force déterminante de sa vie, à savoir que Dieu allait accepter... elle allait accepter, excusez, les plans et faire la volonté de Dieu. Hein? Nous, ce qu'on se souvient, c'est pas son ambiguïté au début à confronter Mardoché. Moi, ce que je retiens, c'est qu'elle a demandé un jeûne et une prière et finalement, elle est allée. Alors, je pense qu'elle a vraiment utilisé son courage. Elle rejoint la communauté illustre de noms qui ont sauvé, tels que Joseph, qui a gardé son peuple de la famine en Égypte, Moïse, qui a sorti Israël de l'esclavage, Samson et David, qui ont délivré les Hébreux des Philistins, et Gédéon, qui a délivré le peuple des mains des Madianites. Donc, Esther, elle nous raconte l'histoire d'une juive qui était orpheline, très simple, qui a vécu un plan exceptionnel dans un contexte particulier. Je vous ai ramené un petit peu un contexte. On n'est pas dans les juges, mais moi, cette semaine, quand je préparais, je me souviens vraiment... Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué quand j'ai fait mon cours Sembec, l'Ancien Testament. Il reparlait souvent du cycle du péché d'Israël. Hein? Je pense que j'en ai parlé au premier cours. Il y a vraiment un cycle qui a été observé pour chaque juge dans la parole. Hein? Les Israélites adoraient d'autres dieux. Dieu permettait à des nations d'attaquer les Israélites. Le peuple suppliait Dieu de lui pardonner de le secourir. Dieu suscitait un juge qui remportait la victoire sur l'ennemi. Le juge mourait. Le peuple adorait d'autres dieux. Hein? C'est vraiment à tous les juges dans l'Ancien Testament, on voit ce cycle-là qui se reproduit. Esther n'est pas une juge, mais il y avait quand même un pattern qu'on voit dans les où ils étaient présentement sous l'emprise de leur ennemi, que Dieu a permis à Esther de les délivrer, que le peuple, après avoir eu le jeûne, a vraiment été quand même impressionné de ce mouvement-là et a changé de cœur. Hein? Fait qu'il y a vraiment un cycle. Puis je vous dirais que c'est un cycle de péché qu'on peut très bien appliquer dans nos vies, hein, où qu'on est dans un péché, on se sent envahi, une prédication, un livre, quelqu'un nous en délivre, mais des fois, hein, on finit par retomber dans ce cycle-là. Alors, dans Esther 4:16, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Zeus. » Zeus, c'est la capitale de la Perse à ce moment-là. « Jeûner à mon intention sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. » Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. Hein? Un grand courage. Esther éprouvait un profond désir de direction humaine. Elle voulait s'assurer de la présence de Dieu à l'origine de la tâche requise. Elle avait bien confiance en son cousin Mardoché, mais elle voulait vraiment s'assurer que Dieu était derrière ce plan-là. J'ai mentionné un peu là, à couper ce qu'elle avait comme possession, comme avoir, comme statut présentement pour pouvoir assurer l'avenir de son peuple et de elle-même. Elle a fait preuve de sagesse et de patience. Hein? Elle ne s'est pas empressée, dès qu'elle a vu le roi, de lui demander sa requête. Elle a fait 2 banquets. Elle a attendu plusieurs jours avant d'y arriver. Elle a sauvé celle de sa race et a ouvert la voie à la venue du Messie. Puis, face à la peur, Esther a démontré une intelligence et un esprit doté de perspicacité et de prudence. Dieu a été dans les concours de circonstances. Hein, quand je vous dis, son nom n'est pas mentionné, mais tu sais que le roi a une insomnie la veille du banquet, qui se souvient de Mardoché. C'est Dieu qui est vraiment au contrôle de toutes les choses, qui détruit les ennemis, même quand que nous, la requête qu'on aurait faite à ce moment-là, sauve mon peuple. Mais Dieu a fait au-delà de tout ça. Il n'a pas juste sauvé le peuple, il a détruit les ennemis qui l'attaquaient. Je crois qu'avec un retour dans le jeûne et la prière du peuple, puisqu'Esther a convié ses servantes et le peuple à le faire, tout le monde a pris conscience d'une façon nationale de l'importance des faits. Hein, ça a été à la grande échelle. Elle a évité le premier génocide de juifs qui aurait pu se produire. Là. Il y avait eu des guerres avant, mais aussi extensives sur tous les juifs, c'était le premier. Donc, des leçons à retenir. Quand nous sommes confrontés à des circonstances difficiles, il est préférable de suivre de sages directions comme celle d'Esther a reçue de Mardoché. Il ne faut pas sous-estimer les gens que Dieu met dans nos vies pour nous placer pour des conseils. Des fois, on a l'impression que la parole ne nous répond pas, la prière ne nous répond pas. On peut demander à Dieu de nous aider par des gens autour de nous à nous donner certaines directions. Mais comme je mentionnais, il y a 1 ou 2 rencontres, hein, on ne s'improvise pas amis de la personne pour la conseiller puis lui apporter des choses. Hein. C'est bien important que ça soit bien dirigé, tout ça. Il est important de discerner la valeur de la collaboration avec d'autres croyants dans la prière et le jeûne afin de nous engager dans une tâche difficile. Moi, j'ai trouvé ça bien. Cette année, les anciens ont décidé de travailler sur leur jeûne et maintenant, chacun de leur propre façon a décidé d'intégrer le jeûne dans leur vie. Alors, je pense pas que c'est un secret, là, dans le sens que c'est quelque chose qu'ils développaient, puis on en a parlé avec Luigi, ou d'être capable de voir que le jeûne peut être utilisé de façon très aiguë dans certaines situations où il y a vraiment un besoin. Mais il y a aussi une notion qu'on peut l'intégrer maintenant dans notre cheminement spirituel pour être capable d'avoir cette notion-là. Puis le jeûne peut prendre toutes sortes de formes aujourd'hui. Hein? Il y en a qui font des jeûnes de télé, des jeûnes de lecture, des jeûnes de plein de différentes choses, de nourriture, là, certainement. Nous devrions utiliser la position dans laquelle Dieu nous place et l'influence qu'il nous accorde pour aider le peuple de Dieu au lieu de favoriser nos propres intérêts. Moi, je l'associe beaucoup à notre milieu de travail, à notre contexte familial, où qu'on est les premiers répondants de ces personnes-là, dans les cas de difficultés, dans les cas de situations. Des fois, on a cette capacité-là d'aller facilement vers les gens ou de facilement donner des conseils, puis des fois, on ne l'a pas. Mais il faut se souvenir que Dieu nous a placé à une certaine place, puis il y a certainement une raison pour qu'on est là. Ce n'est pas juste notre propre choix qui a fait qu'on se retrouve là où on est présentement. Nous désirons que tout se passe tout de suite, mais la patience est essentielle dans notre croissance spirituelle, surtout dans les épreuves, je vous dirais, je pense que c'est là que c'est le plus dur, hein, la patience, d'être capable d'attendre la fin de l'épreuve, c'est difficile. Si comme Esther, nous étions vraiment prêts à laisser Dieu nous utiliser là où nous place, l'Église serait plus forte et plus heureuse. Ça, c'est une phrase que j'ai trouvée dans un des livres qui parlait d'Esther. Moi, je trouve qu'on est très bénis d'être dans une église avec multiples ministères, bien remplis, beaucoup de participation. Juste dans le ministère des enfants dans lequel je suis impliquée, on a plus de 40 bénévoles réguliers là, qui sont là. Fait qu'on a vraiment des gens au service. Mais je pense que chaque personne, il faut se re-questionner, on est appelé à quoi? Puis c'est pour ça qu'on voit vraiment des gens, des fois, qui essayent différents ministères, finalement, se retrouvent en pleine floraison de ça. Je parlais justement à Laura ce matin avec Karine. Ils ont organisé la fête de Jamais tout seul dans le parc à l'extérieur. J'ai dit, vous mettez vraiment à profit votre capacité, malgré vos jeunes enfants, tout ça, être capable de faire des événements puis rassembler en plus de 100 personnes qui sont venues à l'activité dans le parc.
Geneviève.
Est-ce que aussi Geneviève, j'ai pas su tout le monde, mais Laurent nous disait que 50% des invités étaient des écoles, des enfants. Alors vraiment, hein, d'être capable d'utiliser ses dons, puis c'est pas quelque chose nécessairement qu'elle aurait fait d'emblée ou que Geneviève, je pense, d'emblée, là, tu sais, on essaie un ministère, puis finalement, il y a des événements qui arrivent, puis on découvre des dons qu'on a, là. Il faut demander à Dieu de nous aider à montrer son amour, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Je trouvais que c'était un beau résumé de tout ce qu'on a dit. Par Esther, Dieu a montré combien il accorde de l'importance à ses enfants par sa direction lorsqu'il recherche au moment de prendre des décisions. Celle-ci devrait s'appuyer sur la parole de Dieu, être mûrie dans la prière et dans la consultation à plusieurs. Fondée sur une conviction intérieure, elles se verront confirmées par Dieu au moyen d'un concours de circonstances favorables. Moi, je trouvais que c'était un beau résumé de comment on peut appeler, comment on a une réponse que Dieu nous veut là où il nous veut. Hein, c'est pas écrit par courriel, on n'a pas d'appel téléphonique. Hein. Puis les gens, des fois, disent « je vais prier là-dessus, puis on verra où ça s'enligne ». Bien, hein, la conviction intérieure que des fois on développe, les circonstances favorables, il faut être à l'écoute. Si on prie en étant fermé, puis en n'ayant pas d'ouverture, puis en n'ayant pas de désir, bien peut-être qu'on va manquer ces circonstances favorables-là, puis on va manquer des occasions de pouvoir y arriver. Pas du tout dans l'esprit d'évangélisation. Moi, je vais vous conter un moment que j'ai vécu. J'étais à un mariage avec d'un jeune avec qui on avait fait la jeunesse. Puis là, je m'excuse, c'était un moment touchant pour moi. Là, je vais essayer de le conter comme il faut. Puis les parents s'étaient séparés dans un contexte très difficile. La maman était partie avec un autre homme, puis le papa était seul. Au mariage, ils sont venus les deux parents, mais ils étaient séparés dans une grande déchirure. Fait que c'était un mariage très tendu. Puis le papa dansait au début dans les activités, puis là, il y a eu le moment « on danse en couple » après la danse de la mariée. Puis là, moi, j'étais assise avec Luigi, puis là, ça me bouleversait beaucoup. C'est une famille qu'on connaissait très proche. Alors, je décide là, d'un élan là, de me lever puis d'aller danser avec lui à la danse du marié, hein, parce que lui, il quittait la piste de danse qui avait été 10-15 minutes. Puis je décide d'aller danser la première danse que son fils avait. Moi, ça me touchait. Je voyais que lui était touché. On avait un beau moment. Le monsieur est mort 6 mois plus tard, hein, d'un cancer fulgurant en 1 mois. Puis moi, ça me touche beaucoup parce que je me dis, Dieu m'a permis d'avoir un dernier moment avec cet homme-là, de peut-être lui permettre de mieux vivre cette danse-là, où son premier fils se mariait, où il y avait une circonstance. Puis je trouve qu'il faut être à l'écoute de ce que Dieu nous dit. Puis des fois, on est là, « Hey, là, là, oh, là, il me semble que j'ai le goût de faire ça, mais je le ferai pas. » Mais des fois, il faut être impulsif, puis il faut être capable d'écouter ces conseils-là. Puis pour moi, c'est un beau moment, parce qu'il n'y en aurait pas eu d'autres. Son fils s'est marié la semaine avant qu'il décède, puis après ça, il n'est plus vivant. Fait que pour moi, c'est des circonstances où que c'est pas du tout évangélique. Là. Ce que je veux dire, là, il n'y avait pas un esprit d'aller vers les autres, mais il y avait vraiment un esprit. Je pense que Dieu m'a permis pour moi de mieux vivre tout ce deuil-là après, puis d'être capable d'avoir un bon moment. Alors, sommes-nous conscients que Dieu contrôle ce qui se passe aujourd'hui et ne laissera pas filer cette génération sans avoir essayé de la sauver? Il cherche donc, bien sûr, des hommes et des femmes pour cette formidable opération. Puis ce qu'il faut retenir, c'est que si personne ne se porte volontaire, Dieu va quand même faire ses œuvres à sa façon. Mais d'autant plus que c'est enrichissant pour nous et combien valorisant d'être capable de mettre nos dons puis notre temps au service de Dieu. Alors, si c'était le résumé de tout ça, moi, j'ai trouvé un très bon article sur Top Chrétien qui date, là, c'est 2004, qui faisait 9 pages. J'ai décidé de ne pas embourber, là, de vous l'imprimer. Je vous ai quand même mis la référence. C'est très bien. C'est vraiment un bon texte qui relève beaucoup de toute l'histoire d'Esther et les leçons à retenir. Alors, je vous ai mis les 5 éléments concrets. Dieu nous mettra dans le bon endroit pour le servir et accomplir sa volonté. Le plan de Dieu sera accompli même si nous ne participons pas. Nous coopérons avec Dieu à accomplir son œuvre. Nous avons besoin aussi d'autres chrétiens pour nous soutenir dans notre voyage de la foi. En l'Église, hein, souvent on a cette réponse-là, où que, à quoi peut servir l'Église? Bien, c'est exactement ça, le voyage de notre foi, de grandir. On est confronté à des situations pas toujours faciles dans l'Église, mais Dieu il l'utilise pour sa gloire. Puis Dieu est au travail dans les cœurs et dans les vies d'individus, et également de ceux qui ne le connaissent pas. J'avais trouvé, c'était Stormy O'Malley, comme personne à qui je voulais parler, qui avait été dans l'enfer de la drogue, dans des choses très, très dures, puis qui s'en était relevé, puis avait fait un témoignage. Et puis, mercredi ou jeudi, quand j'étais sur mon Facebook, j'ai revu un message de cette famille-là, puis j'ai décidé que c'était beaucoup plus concret et personnel pour moi, fait que je voulais vous en partager. La famille Bourque-Fontaine, c'est Marjolaine Bourque, c'est la fille de Louis Bourque, qui était le pasteur là, qui a quitté dernièrement, qui travaille maintenant pour l'association. Fait que Louis Bourque a 5 enfants, puis Marjolaine, c'est une de ses plus vieilles, qui était à Terrebonne-Masco justement. Puis Stéphane Fontaine, lui, il était plus à Emmanuel. Emmanuel, tu fais oui de la tête, hein? Emmanuel. C'était un couple très impliqué. Ils sont un petit peu plus vieux que moi. Ils ont plus l'âge de Luigi. Moi, je les ai côtoyés, mais tu sais, quand on a 12 ans, ils ont 17 ans. Fait que c'est plus Luigi qui a été proche de Marjolaine. Mais moi, je les ai souvent côtoyés. Stéphane était bien impliqué dans l'évangélisation. Il avait toujours le verset au bout du mot à dire. Il a emmené plusieurs jeunes quand il faisait son cours d'ingénieur au Seigneur. Un homme très fervent qui a fait l'ingénierie. Puis ils ont déménagé, eux, aux îles de la Madeleine. Marjolaine est chirurgienne générale. Donc, elle travaillait là-bas. Et comme vous voyez, ils ont 3 enfants. Donc, le plus vieux est atteint de leucémie. Eux, ce n'est pas la première fois qu'ils sont atteints de leucémie. La sœur de Marjolaine, dans son jeune âge, a aussi eu la leucémie, Catherine. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils sont confrontés à ça. Mais le diagnostic a été posé. Là, ça se peut qu'il y a des petites choses que je cherche moins dans les détails. Là, autour d'un an, un an et demi. Il me semble un an et demi de vie. Caleb a été diagnostiqué avec une leucémie très importante, hein, qui ici au Québec est très difficile à traiter. Donc, Ronald McDonald a envoyé, les a permis d'aller au Texas pour avoir plus de traitements. C'est pas nécessairement expérimentaux, mais c'est des chimios, des traitements plus avancés. Sa sœur a donné de la moelle osseuse aussi à Caleb pour qu'il puisse vivre. Donc, ils ont ouvert un site, un blog et tout ça pour pouvoir mettre leurs nouvelles à jour d'être capables. Il y avait déjà la petite fille quand Caleb a eu le diagnostic, puis elle est tombée enceinte là, du troisième pendant qu'ils étaient là-bas. Alors, une grande épreuve de vie. Elle doit quitter son travail de chirurgienne générale, la seule chirurgienne sur l'île de l'île de la Madeleine. Hein? Fait que même pour la communauté, c'était difficile. La perte de revenus, de 2 revenus importants aussi. Puis, ils quittent là-bas et ils s'en vont au Texas où on voit les péripéties. Caleb a passé très souvent proche de la mort. Marjolaine est venue à l'enterrement de Dominique Guanot pour pouvoir exposer sa fille à un enterrement, à comment ça se passe quand quelqu'un meurt, puis comment les procédures se font pour exposer sa fille, parce que la mort planait toujours autour de la famille. Alors moi, j'ai soulevé les deux derniers posts qui ont été mis sur, le site, puis je voulais vraiment vous les partager parce que pour moi, ça montre vraiment un esprit rempli de Dieu. La vie normale m'est étrangère, je ne m'y reconnais plus. Après avoir passé presque 2 ans à vivre en prison, je me sens perdue en dehors des barreaux. Je n'arrive pas à profiter de la maison de rêve que nous louons, car sans repère, je cherche les quatre murs de ma cellule. La vie d'avant cancer a disparu et je pleure ce monde d'autrefois. Le retour a été ardu et l'adaptation a été compliquée par multiples péripéties. Olivia gère mal l'entrée à l'école, ça c'est la deuxième, et s'ennuie profondément de la famille. Ils ont été isolés à de nombreuses reprises pour ne pas contaminer Caleb. Des fois, ils devaient louer 2 appartements. 3 des membres qui ont été en mauvaise santé, un rhume, devaient rester dans l'appartement. Les autres étaient ensemble. Ils ont vraiment vécu des situations où ils devaient vraiment se contrôler à 5 pour que Caleb puisse être le plus en forme possible. Je ne crois pas que c'était l'idéal de l'avoir parachuté du jour au lendemain dans ce monde normal après avoir vécu si longtemps en parallèle à la vie des jeunes de son âge. Les réveils nocturnes sont nombreux et les pleurs matinaux fréquents. Que Dieu nous guide dans cette problématique. J'ai tout de même la grande joie de vous annoncer que Caleb semble toujours être en rémission. Ça, c'est nos dernières nouvelles. Et que nous progressons lentement, pas à pas, dans la bonne direction. Toujours immunosupprimés, nous devons continuer les mesures d'isolation pour la famille afin de le protéger tant bien que mal des infections environnantes. Jacob est un petit garçon plein de vie. Ça, c'est le dernier. Mais qui nous en fait voir de toutes les couleurs dans son alimentation. À 18 mois, il est aussi difficile à nourrir que son grand frère Caleb, aux prises avec des troubles alimentaires suite au gavage antérieur. La routine des repas est un supplice quotidien. Depuis le déménagement, avec la disparition de la structure de Target House, c'était la maison où il habitait pendant qu'il était hospitalisé au Texas, nous avons perdu notre élan et sommes encore à la recherche d'une stabilité nouvelle. Ma lettre de nouvelles n'est peut-être pas encore la plus encourageante, car notre souffrance est grande et c'est parfois gênant de voir la douleur d'autrui. Si je n'avais pas les promesses bibliques que je sers dans mon cœur, je serais anéantie. Mais ce Dieu fidèle ne m'a jamais abandonné, même dans la vallée. Je prêche à mon âme le verset de Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ô mes amis, mon cœur crie vers toi qui souffre aussi. Nous vivons dans un monde brisé où le diable, ennemi de nos âmes, veut nous tenir dans ses griffes. Mais Jésus, Dieu éternel, est venu marcher dans notre misère pour nous sauver, pas de nos malheurs, mais au milieu de nos malheurs. Alors jetons-nous aux pieds de ce Dieu qui n'afflige pas pour toujours, mais qui tôt ou tard nous délivrera de l'emprise du péché sur nos vies. Alors ça, c'est Marjolaine qui écrit ça. Puis pour l'action de grâce, Stéphane a écrit un petit mot là, que je trouvais complémentaire. « Je n'ai pas de dingue ni de décoration. J'ai l'air de la chaîne à Jacques, mais mon cœur est rempli de reconnaissance. Caleb est en vie. Merci, grand Dieu de l'univers, pour cette, grâce d'être toute la famille en vie. Je suis faible, tout est sans dessus-dessous, et je me sens si perdue dans ce mess, mais tu maintiens notre souffle de vie, et pour cela, je ne peux que chanter tes louanges. Merci également à chacun d'entre vous qui avez militer et qui continue de lutter à nos côtés. Père éternel, que nos bouches cessent de se plaindre et respirent ta grâce incommensurable. Bonne fête d'action de grâce à tous. » Moi, je trouvais que quand je les ai vus dans mon... quand je les voyais jeunes, comment Luigi les a côtoyés, des gens impliqués, remplis de la parole, à l'œuvre. Présentement, ils sont à l'œuvre pour leur famille. Mais pour moi, c'est un modèle où ils ont été remplis des bonnes choses, puis qu'aujourd'hui, dans l'épreuve, complètement démunis de tout ce qu'ils peuvent, ils sont capables de se rattacher à ce qu'il y avait avant. Pas leur matériel, pas leur bon salaire ou leur grande maison. Au contraire, ça semble être un problème de se retrouver dans un bel appartement aujourd'hui versus une chambre d'hôpital 24 heures sur 24. D'être capable d'avoir été rempli, Dieu utilise ça dans une épreuve terrible pour être capable de réutiliser ça. Puis pour moi, c'est un très bel exemple d'être capable d'être rempli de l'Esprit, peu importe les circonstances, mais je pense que Dieu a permis qu'il puisse être confronté avant à bien se remplir, puis être actif, puis avoir vraiment l'esprit à cœur pour pouvoir, dès aujourd'hui, être capable de pouvoir appliquer ça dans une épreuve si grande. Alors, j'espère que pour vous aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on est capable de voir que peu importe on est où dans notre milieu, qu'on soit au début, au milieu de notre cheminement chrétien, juste d'avoir le désir de grandir, d'avoir une soif de lui, puis d'être capable de poser les bons gestes. Puis si aujourd'hui, le seul geste qu'on est capable de poser, c'est la prière, puis être soumis à lui, de vraiment désirer grandir, bien, ça sera déjà la première chose à apprendre. Fait que c'était ça pour ce matin. Et je vais juste conclure par un mot de prière, si ça vous va. Tendre Père, on veut vraiment te remercier d'être notre Papa, d'être notre Dieu si grand qui peut tout faire. Et on veut te remercier de vouloir nous utiliser pour ton service. Je veux vraiment te prier pour la famille Bourque, que tu puisses continuer à mettre ta main sur eux dans cette épreuve. Continue à les remplir de ton esprit et qu'ils continuent à garder leurs yeux fixés sur toi. Et je te prie pour toutes les femmes ici qui vivent bien des souffrances, bien des défis, bien des insatisfactions. Je te prie vraiment que tu puisses nous aider, m'aider moi à constamment se tourner vers toi et que tu puisses nous suffire toi seul dans ce cheminement de vie qui n'est pas toujours facile, mais qu'on peut se souvenir que tu es toujours là à nos côtés. Merci d'être ce Dieu si grand pour nous et merci pour ton Fils que tu nous as donné à la croix. En ton nom précieux qu'on veut te prier. Amen.
Amen.
Bonne matinée.
Merci.
Merci.